Voilà, donc moi je vais vous parler à partir de recherches et de travaux qui sont maintenant pas mal diffusés, que certains connaissent, hein, sur l'agir enseignant, les modélisations que nous avons pu construire sur les gestes professionnels, mais aussi sur les, peut-être moins diffusés encore, sur les postures des enseignants, le jeu des postures des enseignants et le jeu des postures des élèves. Le tout étant pour essayer de développer l'idée aujourd'hui pour le travail en RAR, en ZEP, en ce qu'on l'appelle comme on veut, de la nécessité probablement d'une professionnalité plus exigeante, parce que plus difficile, d'une professionnalité plus instrumentée, c'est-à-dire avec des moyens pour les enseignants d'analyser leurs pratiques, et d'une professionnalité que j'appellerais plus consciente. Hein. Je développe l'idée de conscience professionnelle qui n'est pas de moi du tout, au sens où on a conscience de ce qu'on fait. Hein. C'est-à-dire qu'on peut s'ajuster parce qu'on a les moyens d'avoir conscience. Donc en gros, c'est sur ces idées-là que je vais essayer de travailler aujourd'hui rapidement, mais le tout appuyé sur une éthique professionnelle collective, et une éthique singulière et une éthique professionnelle collective. Donc voilà, c'est sur ces idées-là. Alors voilà. Alors évidemment, quelques postulats d'arrière-plan qui animent ces travaux. C'est l'idée développée depuis 20 ans, et pas toute seule, bien évidemment, de le développement des élèves comme le développement des enseignants sont des développements qui sont tout à la fois évidemment langagiers, qui sont tout à la fois évidemment dans le psycho-affectif, les émotions, les affects, la gestion de ces conflits et de ces émotions, qui sont tout autant dans des processus cognitifs, dans des opérations de pensée qui deviennent de plus en plus complexes, mais qui sont aussi dans la capacité à être avec l'autre, à communiquer avec l'autre, Anne le montrait, hein, parler de soi, parler avec les autres, discuter, se conforter, entrer en conflit quand c'est nécessaire, du développement culturel, etc. Autrement dit, la difficulté du métier, la complexité de l'agir enseignant, c'est qu'il est obligé de travailler sur l'ensemble de ces développements et qu'ils sont indissociables et inséparables. Même si de temps en temps, il y en a un qui prend le dessus sur l'autre, en arrière-plan, les autres sont toujours puissants. Évidemment, de là vient aussi l'idée que nous défendons, et de plus en plus nombreux, et avec de plus en plus de force, et où les travaux sont encore largement insuffisants de mon point de vue, sur le rôle du langage. L'homme se développe par le langage, dans le langage, et je dirais plutôt dans les langages, hein, dans les systèmes sémiotiques. La peinture, la sculpture sont des systèmes sémiotiques, la technologie sont des systèmes sémiotiques. Ce sont des langages. Autrement dit, on attache, et Anne l'a dit tout à l'heure, pas assez d'importance au fait que le langage est le creuset à l'intérieur duquel ses identités, ses développements sont en train de se mêler, de se mélanger, de se structurer conjointement. Et cette dimension intégrative et structurante du langage est tout à fait importante. Nous ne l'avons pas encore suffisamment observée. C'est pour ça que je dis qu'il reste à l'observer à la loupe, c'est les travaux que nous commençons à conduire actuellement, des observations très très fines de l'activité langagière des enseignants et des élèves. Vous imaginez bien, je vais dire une évidence, hein, quand on va dans les classes, en général la parole de l'enseignant est quand même globalement encore à 70% du temps de parole. Donc la dimension intégrative et structurante, elle est pour l'enseignant. Quand les enseignants font de gros efforts, dans les ateliers dirigés que nous regardons de près, on monte à peu près à 50%. Mais il y a encore du boulot à faire. Si on fait le postulat que le langage, c'est par le langage ou les langages, le dessin, l'écriture, etc., que les individus se développent, alors il faut leur laisser les espaces pour qu'ils puissent se développer. C'est élémentaire, mon cher. Troisième postulat d'arrière-plan, l'enseignant dans la classe, l'activité de l'enseignant dans la classe, c'est là-dessus que nous travaillons, notre équipe, elle est didactique. elle est didactique. L'enseignant, il travaille sur des objets d'enseignement. C'est son boulot, la transmission d'objets de savoir, qui sont évidemment aussi des attitudes, etc. Mais autrement dit, il faut, et je crois qu'on a encore beaucoup à faire, et particulièrement dans les situations de classe un peu plus difficiles et particulières, attirer l'attention sur le fait que les dimensions didactiques et pédagogiques sont totalement indissociables. Indissociables. Elles ont été longuement séparées dans nos cultures sciences de l'éducation pour des raisons historiques, parce qu'il y avait des objets à construire. Mais aujourd'hui, le travail à faire, c'est de regarder comment ces gestes, alors je vais les développer tout à l'heure, didactiques et pédagogiques, se renforcent les uns les autres, avec cette idée que aider un enfant va nécessiter une connaissance des objets didactiques très très précise, performante. Moi, à Noël, il fallait que j'aide mes petits-enfants sur des questions de mathématiques, mais j'ai appelé mon mari parce que je ne peux pas les aider sur des questions de mathématiques. Je ne peux pas, tout en étant, je crois, assez performante sur le plan éducatif. Non, j'ai buté devant des objets que je ne maîtrisais pas, des petites manières de faire que je ne connaissais pas. Aujourd'hui, apporter de l'aide à des élèves, et c'est pour ça qu'on a dû vous dire, l'aide au devoir, c'est le meilleur comme le pire. Hein, parce que, effectivement, on ne peut pas remplacer ces compétences didactiques précises tout à fait importantes. Et là, je pense qu'on a encore de beaux jours de recherche devant nous. Enfin, une autre idée qui apparaît très fort dans notre laboratoire et que je voudrais développer, c'est cette idée de la double dynamique. À savoir qu'on observe, là, dans les travaux assez récents que nous menons, notamment auprès de stagiaires que nous suivons de manière longitudinalement toute l'année, sur des situations de classe, hein, on les observe une quinzaine de fois dans l'année, dans des situations relativement identiques d'ateliers d'écriture, j'en reparlerai tout à l'heure, on observe une double dynamique. Autrement dit, le développement de l'élève, sa réussite, son bien-être, développement langagier, cognitif, etc., et celui du maître sont indissociables. Donc, ça voudrait dire que la réussite de l'élève est liée à celle de l'enseignant. Je crois que Sanseville avait déjà formulé cette idée. Mais du coup, pour la formation, qui est quand même notre souci à tous ici, je pense, il nous faut créer à tout prix les conditions de cette double réussite. Alors, vous voyez les beaux jours qui s'annoncent devant nous, là. Hein, où on va mettre de jeunes étudiants devant des élèves dans des situations extrêmement difficiles. Ils vont être en échec eux-mêmes, vont provoquer l'échec de leurs élèves, souvent, dans une espèce de synergie inquiétante. Et lorsqu'ils vont être faire réussir leurs élèves, ils vont réussir. On le constate et on commence à pouvoir le montrer très, très clairement, cette affaire-là. Hein. Autrement dit, c'est un mécanisme dialogique, identitaire, des transactions dont tu parlais, tout à fait partagé. Il nous faut donc réfléchir de façon forte aux conditions de développement conjoint des élèves et des maîtres. Et c'est ça la raison pour laquelle je vous proposerai un petit peu plus loin de nouveaux dispositifs, le dispositif atelier sur lequel nous avons travaillé, qui a le mérite essentiel de créer les conditions de cette réussite, plus ou moins approfondie, hein, plus ou moins aboutie, mais il y a toujours de la réussite et il n'y a pas de refus. Voilà. Donc voilà quelques postulats d'arrière-plan. Voilà. Alors après, je voulais être un peu... C'est pas provocatif, mais aujourd'hui on est dans une journée de résistance. Et je trouve que c'est une posture éthique professionnelle de résister. Résister à quoi ? Alors, j'ai mis une liste à l'après-vert. Résister aux doxa qui circulent, aux réponses hâtives qui font, j'allais dire, les lieux communs des salles des professeurs, les lieux communs des débuts de stage, que j'entends très très régulièrement en négociation de stage. Il n'y a pas d'attention, il n'y a pas de vocabulaire, il n'y a pas de motivation, ils n'ont pas confiance en eux, ils manquent de repères, c'est trop hétérogène, le niveau est faible, il y a trop d'agitation, vous connaissez cette litanie. Hein. Et cette litanie de ce discours que j'appelle le discours professionnel disponible de salle des professeurs, je l'entends, hein, j'entends d'autres discours aussi, hein. Des discours tout à fait différents, hein, amènent des réponses hâtives, des réponses de bon sens. Il manque d'attention, alors il faut faire des tâches courtes qui se succèdent, hein, parce qu'ils ne peuvent pas tenir leur attention longtemps. Ils peuvent tenir une heure sur une Game Boy, mais cinq minutes sur un exercice, ils ne peuvent pas. Hein. C'est évident. Manque de vocabulaire. Alors là, on vient de faire des stages rares. C'est la litanie, ils n'ont pas de vocabulaire, ils n'ont pas de vocabulaire, ils n'ont pas de vocabulaire. Après, quand on interroge un peu, en fait, on dit, mais quel vocabulaire? Et on se rend compte qu'en fait, très souvent, bien sûr qu'ils ont du vocabulaire, ils ont d'autres vocabulaires. Et en plus, en réalité, très souvent, le manque de vocabulaire, c'est un symptôme pour appeler l'attention, pour faire répéter, etc., qui est tout à fait pour faire parler à la place. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes de lexique, hein, mais attention de ne pas sombrer directement là-dessus. Manque de motivation, alors on va donner des tâches ludiques. On ne va pas donner des tâches où on va amener jusqu'à la réflexivité, parce qu'ils vont se lasser. Hein, ils vont se lasser, on entend ça, ils vont se lasser. Manque de confiance, il faut qu'ils aient confiance en eux. Alors on va leur donner des tâches faciles où ils réussissent. Ils ne sont pas dupes, ils ne sont pas dupes. Manque de repères, ils n'ont pas de repères. Alors on routinise, on surétaille, on donne des repères, on, etc. On suraccompagne. Trop d'hétérogité, pour moi c'est là le plus dangereux. Trop d'hétérogité, c'est vrai. Tout ça est vrai, mais ce sont des symptômes. Trop d'hétérogité, c'est vrai que l'hétérogité devient croissante. Mais la réponse apportée à l'hétérogénéité, qui est de séparer, de trier, d'empêcher le fait qu'il y ait le travail collectif, la confrontation des points de vue, les gestes sociaux dont je parlerai tout à l'heure, pour qu'effectivement il y ait de la construction collective du savoir, me paraît une question discutable. Faible niveau, etc. Trop d'agitation, alors on cadre, on empêche de parler parce qu'il faut cadrer. Il faut cadrer. Hein, c'est un discours que j'entends beaucoup. Etc., etc. Tout ça est vrai. Hein, tout ça est vrai. Mais ce sont des symptômes. Ce sont des symptômes du mal-être des enfants, des difficultés des enfants, des difficultés des enseignants. C'est, tout ce que je dis est peut-être discutable, mais vous aurez le temps d'en parler. Du coup, j'essaye de dire une professionnalité exigeante, une posture éthique, notamment en rare, mais à mon avis ailleurs c'est pareil, mais c'est plus spécifique en rare. Il faut résister aux élèves, donc je vais le montrer aux postures des élèves. Anne l'a montré déjà. Il faut résister aux collègues, ce que j'appelle l'effet établissement, l'effet toiture. Hein. Dans un établissement, ben oui, mais on fait comme ça dans cet établissement. Ben non, on va essayer de faire autrement quand même. Hein. Et c'est dur, hein, très très difficile de réfléchir à l'effet toiture de l'établissement. Moi je vois des gens très très performants, des jeunes stagiaires très bons. Je les vois arriver dans une école rouge, ils deviennent rouges. Je les vois arriver dans une école bleue et en école grise, on les voit qui se tassent très vite. Hein. Donc résister, c'est difficile. Donc il va falloir les accompagner. Il faut résister aussi, je suis désolée, aux instructions à l'institution. C'est un devoir éthique, je suis désolée. Quand on a reçu les instructions qu'on a reçues, quand on reçoit les programmes qu'on reçoit, il faut résister. Il faut résister collectivement. Quand je dis à la hiérarchie, je prends l'exemple des instructions officielles terrifiantes que nous avions eues il y a 2-3 ans sur la lecture, par exemple. Hein. Qui allait à l'encontre de tout ce que les chercheurs professionnels pensaient. Hein. Or, il y a des enseignants qui ont résisté. D'ailleurs, en gros, la profession a résisté. Ça ne veut pas dire que tout était mauvais là-dedans, encore une fois. Hein, encore une fois. Mais il faut savoir doser. Et j'allais dire, il y a une résistance profonde qui est une résistance à soi-même, qui est une résistance à ses habitudes, à sa lassitude. Hein. Qui est de se dire aussi, je suis restée 7 ans dans cet établissement, il faut que je m'en aille, parce que sinon j'ai plus de regard neuf, ni sur les élèves, ni sur les collègues, ni sur les objets de savoir. Hein. Il y a quelque chose dans ce métier qui demande qu'on soit en permanence, en résistance avec soi-même, pour rester en état de vigilance et en état de créativité. Et puis je voudrais développer un tout petit peu la théorie du manque, mais si vous avez travaillé dessus, vous le savez, porter un autre regard sur les élèves, c'est cela que je veux dire par résister, hein. Ne pas apporter le regard des collègues, le regard de l'institution, le regard du quartier sur les élèves, mais le regard sur les élèves qu'on a et un regard dans la singularité des élèves. Le déficit qu'il y a le plus important à l'école, notamment en rare, parce que c'est difficile, parce que c'est lourd, c'est la capacité à voir les élèves dans leur singularité. J'allais dire d'avoir cette posture éthique difficile, d'être présent à l'élève. Enseigner, c'est même faire une conférence, c'est être présent à son public. c'est être présent à l'écoute de ce qui va se passer. Cette présence à l'autre me paraît tout à fait importante, mais pour le faire, il faut un haut niveau, de mon point de vue, de conscience professionnelle. Alors, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail du modèle que nous avons construit, que certains d'entre vous dans la salle connaissent. Je reconnais quelques têtes là. Nous avons essayé de construire, Anne en a fait partie de cette équipe, et puis d'autres ont travaillé sur des modélisations de l'agir enseignant, mais nous avons construit un modèle, des modèles, parce qu'ils se sont développés, pour instrumenter l'agir enseignant. En gros, l'agir enseignant est d'une, je l'ai dit tout à l'heure, d'une très grande complexité, d'une très grande épaisseur. Donc, être conscient de ces pratiques, analyser ces pratiques, comme tu le disais, nécessite des outils pour les analyser. Et c'est la modestie de notre projet d'aider à l'analyse des pratiques. Mais en même temps, effectivement, et c'est notre niveau de conceptualisation, permettre des régulations, des transformations. Le métier est appelé à se développer et à se transformer de façon considérable. Nouvelles technologies, nouveaux publics, nouveaux savoirs. Dans 10 ans, le métier va encore avoir évolué de façon spectaculaire. Il faut donner les instruments de cette régulation et de ces transformations, et donc pour favoriser les prises de conscience, ça va de soi. Alors, je vais aller assez vite, mais en gros, nous avons construit une sorte de réflexion sur le fait que l'enseignant dans sa classe, il fait 36 choses à la fois, ça n'est pas un scoop, hein, que le débutant, précisément, est celui qui n'arrive pas à tout faire, par exemple, ou le professionnel qui débarque avec un nouveau programme, à nouveau se retrouve à l'état de débutant, quelquefois, sur certaines questions. Et donc, pour simplifier les choses, nous avons essayé de regarder quelles étaient les principales préoccupations. Elles sont toutes enchâssées les unes avec les autres. Elles sont très étroitement corrélées et je vous les décris très brièvement. En même temps, derrière ce choix de métaphore que nous avons soigneusement fait, il y a des cadres théoriques extrêmement complexes derrière que, évidemment, je n'ai pas le temps de développer, mais probablement la force du modèle tient à l'arrière-plan théorique tout à fait considérable qu'il y a derrière. 5 préoccupations, le pilotage des tâches, il s'agit effectivement, et là on est à la course à la montre, de regarder le temps, l'espace, les artefacts, les instruments, les tâches qui sont données. Donc on a un souci permanent, hein, du pilotage des tâches. Mieux c'est préparé à l'avance, mieux ça se passe. Si c'est trop préparé à l'avance, ça empêche quelquefois aussi l'imprévu, l'irruption de l'événement et de l'imprévu. De façon très importante, je vais insister sur le concept d'atmosphère, parce que c'est vraiment cette présence à l'autre, cet espace qui est laissé aux élèves pour parler, penser, réfléchir ensemble, dialoguer, et cette espèce d'atmosphère est en permanence évolutive entre le début et la fin de la leçon, entre le début de la conférence et la fin de la conférence, entre le début et la fin de la matinée, l'atmosphère va être totalement différente, et il y a toute une réflexion sur le respect de l'autre, l'écoute de l'autre, l'écoute de la singularité qui est derrière ce concept d'atmosphère. Derrière le concept de tissage, c'est l'idée que l'enseignant en permanence a à donner du sens, mais pour donner du sens, il a sans arrêt à tisser des liens avec ce que l'élève a fait avant, ce qu'il va faire après, tissage vers l'amont, tissage vers l'avant, entre le début de le premier exercice et le dernier exercice, les élèves ne font pas le lien entre les différentes tâches du tout. Les bons, oui, les moyens, un petit peu, les faibles, ne comprennent pas la succession des tâches. Donc il va falloir tisser, etc. Mais aussi beaucoup le tissage avec l'expérience de l'élève, son histoire culturelle, sociale, personnelle, son projet personnel. Il y a cette idée de la vie de l'élève, de ne pas faire une schizophrénie entre l'élève dans sa vie et l'élève dans la classe, d'essayer de tisser des liens de sens. L'autre concept est dominant aujourd'hui dans nos travaux, le concept d'étayage d'après Brunner, c'est l'idée que la présence du maître à l'élève, elle se module, modère, sur un continuum, j'aide beaucoup, j'aide peu, j'aide un petit peu, je pointe, je me retire complètement, ou au contraire, j'enseigne. Voilà. Donc nous avons identifié là, je vais vous le montrer tout à l'heure, des postures d'étayage, et évidemment l'ensemble de ces tâches vise à la construction d'objets de savoir, de techniques, d'attitudes, etc. Voilà ce que l'on a appelé un multi-agenda de préoccupations enchâssées. Derrière ce multi-agenda de préoccupations enchâssées qui se joue dans l'actualité de la leçon, alors c'est les petits ronds au milieu, les petits scénarios, les petites tâches qui se succèdent, eh bien la dynamique de l'agir enseignant se modifie pendant la leçon. Et cette modification de la leçon, hein, évidemment, si j'aperçois que j'ai donné un exercice trop facile dans le scénario 1 ou dans le scénario 2, je vais modifier. Les représentations de la situation sont en travail en permanence pendant la leçon. Elles vont déclencher chez l'enseignant des postures, je vais essayer de définir. Mais en même temps, ces postures de l'enseignant, ces représentations de la situation sont extrêmement tributaires de ce que nous avons travaillé et puis qui fait écho à d'autres choses que j'ai entendues, mais qu'un certain nombre d'autres, des logiques d'arrière-plan préconsciente, du préconscient, hein, la vision des élèves, la vision du savoir précis que je suis en train de travailler, qui chez nos débutants est très très flou, hein, et derrière ces logiques de préconsciente, il y a des logiques profondes que nous n'interrogeons pas en formation, des valeurs, du style, est-ce que tous les élèves ont le droit de réussir? Ben, je vous assure que quand on fait des stages longs, et qu'on pousse la discussion là-dessus, certains enseignants pensent que non, il y en a qu'il faut aider plus et d'autres moins parce que la nature a fait que les enfants sont inégaux et que donc, voilà. Hein, les conceptions des apprentissages qu'il faut répéter pour que ça rentre, elles sont encore massives. Voilà. Hein, le rapport à la prescription, etc., je passe. On sait aujourd'hui que ce qui se passe dans l'espace du milieu de co-ajustement est tributaire effectivement de logique d'arrière-plan ou de logique préconsciente, vision des savoirs, vision des élèves, mais derrière, c'est très souvent l'expérience sociale, scolaire, professionnelle, le rapport au langage, à la prescription, etc., les valeurs qui jouent. Nous ne travaillons pas suffisamment là-dessus en formation, on en a aujourd'hui les moyens. De l'autre côté, je ne le développerai pas. Mais c'est exactement la même chose du côté des élèves. Les élèves construisent des postures parce que eux aussi, ils ont un déjà-là. Donc, c'est tous les travaux de Paris 8. Hein. Ils ont un déjà-là, ils ont des projets, des valeurs, ils ont déjà des savoirs, etc., des émotions, un rapport au langage, etc. Je ne développe pas trop. Je vais essayer d'avancer sur cette idée-là que la coactivité du maître et des élèves, tout à fait difficile à comprendre puisqu'on parle d'efficience. Où elle est, cette efficience ? Aller du côté d'un jeu partagé dans des contextes, dans des situations qu'il nous faut encore largement éclaircir avant de porter des jugements rationnels sur juridiques sur l'efficience des enseignants. Il faut aller regarder de plus près, se donner les moyens de regarder de plus près. On peut dire aussi déjà que probablement l'efficience se fait en partie, dans la clarté partagée des enjeux de savoir derrière les tâches demandées. Ça, on commence à le savoir. Alors, nous avions depuis longtemps fait un travail sur les postures d'apprentissage des élèves. Je suis contente d'entendre, je ne connaissais pas ce travail d'Anne, qui rejoint en partie certaines les travaux que nous avions faits, mais il y a bien longtemps, sur les postures d'apprentissage des élèves. Une posture étant un schème de pensées qui sont mises en paquet. Hein. J'ai l'habitude de comparer une posture à une vitesse au vélo. Hein. On a plusieurs vitesses sur un vélo et en fonction des difficultés, on change de braquet. Et donc, on a identifié chez les élèves un certain nombre de postures d'apprentissage scolaire, ludique, posture première, posture dogmatique, réflexive, hein, prise de distance, mais je reconnais un certain nombre de choses, mais je trouve intéressant ce que je viens d'entendre, mais qui fait que les élèves sont, par rapport aux tâches qu'on leur donne, dans des postures différentes. Hein. Mais, encore une fois, ils ne sont jamais dans une seule posture, et ces postures sont modifiables. Vous le savez, les élèves en difficulté ont tendance à être plutôt dans des postures dogmatiques, je sais déjà, postures scolaires, je suis en insécurité. On a plus de difficultés quelquefois à les mettre en posture réflexive. Les postures de refus sont, elles existent, mais sont pas si rares que ça. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Ok, je vais développer. Ces postures d'apprentissage, elles ont un versant positif et tout un versant négatif. Posture scolaire, être en règle, se conformer, c'est nécessaire. Si on se conforme trop, on fait que se conformer, on pense plus. Voilà, elles sont toujours en tension. La posture ludique, vous le voyez aussi, qui est, on n'a pas plutôt donné une consigne que l'élève, certains élèves vont détourner la consigne. Ils vont être à côté. Et les travaux sur l'analyse du travail nous montrent qu'on ne peut pas rentrer dans la prescription telle qu'elle nous est donnée. Le déplacement de la prescription est une nécessité absolue. Que les élèves déplacent la consigne, c'est un signe de bonne santé intellectuelle. Mais évidemment, s'ils s'en vont très loin, là, il y a des risques. Donc, vous le voyez, il y a un espace dans cette dimension qu'on appelait ludique, de créativité, qui est aussi un espace d'intelligence et de réflexivité. Mais bien évidemment, il faut le contrôler. Dans la posture première, on était dans la réflexion tout à l'heure, la posture première, hier soir, il fallait faire le PowerPoint, on fonce. Hein ? On fonce, on attrape tout ce qui traîne, on n'a pas beaucoup de temps, on y va. Hein ? Si on prend une semaine pour réfléchir à son PowerPoint et ce qu'on va faire, ben on fait plus rien. Donc quelque part, la posture première, tout le monde l'a, il faut se jeter dans le fer pour dire, mais là ça va pas, mais bon, non, mais... Tant qu'on n'a pas commencé de faire, on ne voit pas les questions. Donc la posture première, cette implication forte, ce brut d'écrit, d'identification, d'absence de lien quelquefois, c'est une posture de vie, c'est une posture d'action tout à fait nécessaire. Évidemment, quand l'élève écrit un texte et qu'immédiatement il le ferme et il le met dans son cartable, et qu'il n'y revient pas dessus, scolairement, c'est pas très intéressant. Quand la femme de ménage fait à toute vitesse le repassage et que vite elle passe à autre chose, professionnellement, c'est intéressant. Vous voyez ? Donc vous comprenez que cette posture du faire est une posture d'action. Voilà. La posture dogmatique, juste l'anecdote, je ne résiste pas, d'une de mes collègues il y a quelques années qui, sachant qu'elle allait être inspectée, passe 3 semaines à préparer son cours. Préparer. Évidemment, vous imaginez bien, le jour de la visite, elle tombe malade. Elle a tellement préparé qu'elle est dans l'impossibilité de faire. Elle a tellement intellectualisé qu'elle ne peut plus être dans l'action. Donc vous voyez cette dimension de l'action qui est dans ce mélange d'ajustement, mais voilà, posture réflexive, etc. Et voilà, j'avance quand même. Hein. Nous avons identifié des postures de l'enseignant. Les postures de l'enseignant, nous les avons identifiées grâce au modèle des gestes professionnels précédents, où nous avons regardé, et essentiellement à partir d'analyses linguistiques. Nous avons identifié ces postures des enseignants à partir du feedback qu'apportent les enseignants dans la classe. Mais essentiellement, on l'a fait sur des ateliers d'écriture et de lecture en CP, où on avait un espace réduit, on pouvait bien voir les choses, hein, donc peut-être portée limitée, mais néanmoins. Et donc, nous avons regardé la manière dont l'enseignant aide, apporte de l'aide individuelle ou collective. Et cette aide, nous l'avons regardée effectivement dans ses feedbacks, dans ses interpellations, et c'est le travail d'Yves Soulet qui a beaucoup contribué à cette identification des postures d'enseignants. Nous avons identifié, alors c'est un continuum, hein. Vous savez que penser c'est classer, donc on classe, mais classer c'est toujours, ce sont des modèles, ce n'est pas la réalité, encore une fois, hein. C'est un instrument pour observer le réel, ça n'est pas le réel. En fait, en réalité, la posture de l'enseignant, elle bouge, elle se modifie dans un continuum, qui va de l'accompagnement, alors je vais le définir, au contrôle, au lâcher prise, à l'enseignement, et puis on a identifié la posture du magicien, éventuellement des postures de surétayage. Autrement dit, dans une posture d'accompagnement, le tableau je vous le resterai, mais je ne vais pas vous le commenter, c'est pour vous montrer la manière de travailler. La posture d'accompagnement, on observe que le geste de pilotage est souple et ouvert. Le prof, il n'est pas le nez sur la montre. S'il a besoin de prendre du temps, il prend du temps. L'atmosphère, là, ben oui, on parle, on discute, on laisse... L'atmosphère est très ouverte et très détendue, elle est très collaborative. Et le tissage est très très important, parce que le maître va dire, ah oui, mais pourquoi tu dis ça? Et qu'est-ce qui te fait penser que... Et vous vous souvenez de ce qu'on avait vu déjà? Il va y avoir un tissage très très important. Les objets de savoir sont très souvent simplement en émergence. Ils sont en train de monter, c'est le principe de dévolution des matheux. Et la tâche des élèves, elle est de faire... posture première, et puis aussi de discuter sur leur faire. Et donc là, on est dans une posture d'accompagnement. À l'opposé, une posture de contrôle est une posture où l'enseignant va essayer de faire avancer tout le monde en même temps. Donc il a un feedback permanent, hein, une évaluation permanente. Parce qu'on est dans le synchronique, on est dans un pilotage très serré, il a la course à la montre, hein, on le voit à l'école primaire comme dans des classes de lycée. Donc l'atmosphère est très, très tendue, très hiérarchique. Il n'y a pas le temps de faire du tissage, très peu. Les objets de savoir sont très souvent en acte et les élèves, ils sont en train de faire, ils sont en train de gratter, ils sont en train de répondre à toute vitesse et la dimension réflexive n'y est pas. Je ne vous fais pas le total, sauf si vous y tenez absolument, mais la posture du magicien, c'est la posture où le savoir sort du chapeau. Le prof arrive, etc., il théâtralise, et puis fermez les yeux, ouvrez les yeux, combien il y a de... fermez les yeux, ouvrez les yeux, je prends des séances de maternelle que nous avons observées, mais aussi je me souviens de séances de chimie quand j'étais au lycée, où en bas il y avait des choses en jaune, en vert, on précipitait, etc., on ne savait pas du tout ce qui se passait, et puis on nous a donné la formule finale, on n'avait rien compris, on était fascinés, etc. Donc la posture du magicien. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que nous avons compris, c'est que l'enseignant efficient, j'ose dire, est probablement celui qui a la capacité, ou c'est un professionnel, on va dire, ça vaut mieux, est probablement celui qui a la capacité de circuler sur ces différentes postures. Nos enseignants débutants, que nous observons beaucoup, puisque nous avons une thèse là-dessus, sont pour l'essentiel dans des postures de contrôle et ils sont essentiellement dans des postures d'enseignement. La posture d'enseignement, on a appelé cette posture, c'est mal choisi, mais on n'arrive pas à trouver un mot. C'est ce petit moment où l'enseignant conceptualise ou fait conceptualiser les élèves après une tâche ou à l'occasion d'une tâche. Ça dure quelquefois très peu de temps, c'est souvent en fin de cours, mais pas forcément. Et c'est des petits instants. Or, nos jeunes stagiaires, ils ont tendance à être dans l'enseignement, dans le second degré tout particulièrement. Moins dans le premier degré, mais en second degré, ils enseignent, etc. Et dans ces moments d'enseignement, quelquefois, ils n'y sont pas. À l'école primaire, quelquefois, ils n'y sont pas, parce que quand on regarde l'enregistrement des cassettes, on n'entend pas les objets de savoir. Les objets de savoir ne sont pas nommés. On ne les entend pas. Donc effectivement, on a sans doute été beaucoup plus dans du faire, dans du contrôle, etc. Je reviens en arrière. Les travaux que nous menons commencent à nous permettre de dire qu'il y a des liens, mais je dis commence, hein, parce que c'est compliqué cette affaire, qu'il y a des liens entre les postures des maîtres et les postures des élèves. Et il est clair que la posture de contrôle, sur cadrage, nécessaire souvent dans les ateliers de techno sur lesquels nous travaillons aussi, bien sûr qu'il faut qu'il y ait du contrôle, il y a du danger, il y a des appareils difficiles, il faut être dans la posture de contrôle par moment. La posture de contrôle apporte... tant à créer la posture scolaire, la posture d'accompagnement, il est clair qu'elle est très liée au développement de la posture réflexive et de la posture créative. Il y a un espace pour penser qui est offert, les élèves s'en emparent. À l'inverse, lorsque des élèves sont essentiellement, ont été formatés par l'école, sur des postures scolaires, pour arriver à les faire penser, c'est dur. Je vois le geste. Donc, voilà, le lien entre les... Créer les conditions d'une coactivité efficience, l'atelier dirigé. En d'autres termes, si on veut transformer les pratiques à l'école primaire et au collège, il faut être capable d'inventer d'autres dispositifs audacieux. Là, on est en train de beaucoup travailler sur les ateliers qui sont des petits espaces où, effectivement, cette coactivité, ce dialogue, cet accompagnement est possible, alors même qu'il y a le reste de la classe qui travaille. Oui, c'est possible, à l'école primaire, en maternelle, en collège. On est en train de l'expérimenter. Ça produit des changements très considérables dans l'atmosphère de la classe, dans les relations entre les élèves. Je ne vais pas trop développer. Je voudrais... cet atelier dirigé, ce n'est pas du travail du groupe. C'est autre chose, diversifier les dispositifs. L'atelier dirigé, c'est un moment où l'enseignant est présent, et tu le disais tout à l'heure, hein, il est présent avec 4 ou 5 ou 6 élèves. Il ne les lâche pas pendant une demi-heure. Pourquoi il ne les lâche pas? Parce qu'il va se rendre disponible pour les observer dans leur singularité. C'est là qu'il les voit. Hein. C'est là qu'il va diagnostiquer que ce que le D et le B chez le petit, c'est la même lettre. Oui, il y a le ventre d'un côté et le ventre de l'autre, mais pour le petit, c'est la même chose. Hein. Que le 6 et le 9, c'est la même chose. Mais s'il n'a pas l'élève sous les yeux, il ne voit pas un certain nombre de difficultés. Donc, il va observer, comprendre, diagnostiquer, accompagner sur des problèmes didactiques effectifs. Et donc, du coup, il va permettre la mise en place de postures d'apprentissage. Il va faire travailler sur les postures d'apprentissage. Hein, la faire varier ces 5 ou 6 postures que nous avons identifiées, dont toutes sont nécessaires aux apprentissages. Mais en même temps, des postures qui sont avec une dimension cognitive. Mais j'insiste beaucoup sur cette idée, tu l'as appelée autrement, mais nous sommes en train de regarder ce que nous appelons les gestes sociaux d'apprentissage. On n'est pas constructiviste pour rien. Hein. Apprendre, c'est apprendre à demander de l'aide, c'est apprendre à discuter. Et puis ce sont des postures langagières qui sont apprendre à nommer, apprendre à discuter, apprendre à argumenter, apprendre à expliciter, et mettre en place des gestes d'étude tout à fait spécifiques. Hier, on avait une conférence avec Michel Tozzi qui faisait le débat littéraire, Michel Tozzi qui faisait le débat philo, Christian Orange qui faisait le débat scientifique, et moi qui faisais le débat littéraire, et on a bien vu que derrière ces 3 débats, il y avait des gestes didactiques, des gestes d'étude des élèves tout à fait spécifiques et tout à fait différents. Et dont il faut que nous soyons tout à fait conscients. Et ces gestes, il faut les enseigner. Et donc, il faut créer les espaces pour les enseigner. Enfin, je voudrais terminer sur cette dernière idée. Je serai bref parce qu'elle fait écho à ce que tu disais. Cette question du double développement et de la double dynamique. Vous faire état d'une recherche, d'une thèse là en cours, mais qui est bien bien avancée, qui montre que lorsqu'on observe des stagiaires PE2, hein, porte sur des stagiaires PE2, entre mars et juin, on les a regardés tous les lundis, dans un dispositif connu qu'ils reprennent, qu'ils transforment, et c'est le même, hein, pour qu'il y ait de la permanence du dispositif pour que nous puissions observer. Nous avons regardé l'évolution de 2 jeunes profs, hein, une année, l'autre l'année suivante. Ils sont très opposés tous les deux. Qu'est-ce qu'on observe entre mars, février et juin? Primo, au début, les stagiaires voient la classe ou le groupe d'élèves. Même en petit dispositif, ils voient le groupe d'élèves. Après, ils commencent à voir quelques élèves. Ils typifient. Et c'est seulement en juin, mai-juin, qu'ils commencent à voir la singularité des élèves. Et on entend les prénoms et on entend les interventions différentes. En même temps, au début, on est sur les apprentissages du lire-écrire. On n'a plus aucune question sur les apprentissages de l'écriture. Et c'est que petit à petit, à la fin de l'année, que l'enseignant se rend compte que la phrase, les mots sont des problèmes difficiles, qu'il y a des difficultés spécifiques. Les regards portés sur les objets d'enseignement évoluent et se construisent très progressivement et lentement. En même temps, évidemment, l'aide se personnalise, d'accord? Puisque la vision de l'élève apparaît singulière, les objets de savoir sont plus singuliers, donc du coup, la réponse professionnelle et didactique apportée à l'élève se personnalise. Et en même temps, quand je dis se personnalise, c'est intéressant parce que dans un groupe hétérogène, on n'a pas la même réponse à un élève en difficulté et à un élève en réussite. Donc, voilà. Et du coup, on voit que les postures d'étayage, au début, posture de contrôle dominante, normale et attendue, progressivement, on voit s'installer une posture d'accompagnement, voire une posture de lâcher prise où l'enseignant accepte, et vous savez combien c'est difficile pour les stagiaires, de lâcher prise sur le reste de la classe ou de lâcher prise sur 2 élèves, de ne pas s'en occuper, de leur faire confiance, etc. Et du coup, les gestes didactiques spécifiques se construisent. Et on assiste évidemment à l'identité professionnelle qui se construit et qui, à la fin, devient une identité critique. Alors qu'au début, on est dans une insécurité, une instabilité, je ne peux pas, je ne sais pas, je n'y arrive pas, progressivement, on sent les choses s'installer et l'identité progressivement se construire. Voilà un petit peu ce que je sais pas si j'ai une conclusion, j'en sais rien. C'est pas très important. Mais en gros, cette idée que je voulais essayer de développer là, c'est la nécessité de créer des espaces de professionnalisation, d'accord, où les stagiaires soient dans un espace de possibilité de travailler, de réussir eux, de faire réussir leurs élèves, de pas trop d'éparpillement sur des tas de situations différentes pour qu'il y ait une certaine continuité de durée dans les apprentissages pour que ce développement puisse avoir lieu. Hein. Donc il me semble que, vu la situation dans laquelle on se trouve, nous allons besoin d'être extrêmement attentifs, extrêmement inventifs, extrêmement conscients et lucides, avec des apports théoriques nécessaires, pour accompagner les stagiaires, la formation continue, les T1, les T2, etc. Je m'arrête là.